Curieusement, c'est exactement la préoccupation qui m'habite dans l'exposé. La transition est simple, malgré l'éloignement des domaines, parce que quand on parle de rendre familier étrange ou rendre étrange quelque chose de familier, on est vraiment, d'un point de vue pédagogique, en difficulté lorsqu'on regarde les vues lumières qui vont être l'objet de cet exposé, parce que c'est vraiment le point central de mon propos aujourd'hui avec vous. Le problème, il est aigu avec les vues lumières parce que on a l'impression que ce sont des objets très familiers, alors qu'il y a une véritable distance entre leur contexte de production et leur contexte de réception aujourd'hui, et une distance dont on n'a pas conscience parce qu'on pense que c'est du cinéma. Or, le cinématographe, il appartient à une période où le cinéma, dans ses fonctions sociales, dans ses formes esthétiques, dans son organisation industrielle, etc., avait peu de choses à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde ces vues-lumières, il peut être intéressant de se poser la question de savoir exactement comment elles ont pu être perçues et à quoi elles participaient lorsqu'elles ont été produites. Alors c'est aussi un préalable pour m'excuser par avance de faire un pas de côté par rapport à la question ici centrale de l'histoire des arts et de son enseignement. En réalité, je vous avoue que j'ai, même après une journée et demie de colloque, je n'ai pas compris si l'histoire des arts, de quoi il s'agit exactement dans l'histoire de... C'est-à-dire s'il s'agit, non, je vais être précis, est-ce qu'il s'agit d'inventer une nouvelle discipline? Est-ce qu'on assiste à l'invention d'une nouvelle discipline qui s'appellerait histoire des arts? Ou est-ce que c'est simplement la création, apparemment politiquement assez volontariste, d'un champ pédagogique aux contours, semble-t-il, un peu flou, mollement bordé par un texte institutionnel au statut peu défini et néanmoins potentiellement contraignant? Voilà. Bon, vous me permettrez tout au moins de former le vœu que vous puissiez mettre à profit ce flou qui est trop facilement dit artistique, en tout cas cette largeur de vue ministérielle, pour expérimenter des nouvelles pratiques pédagogiques ou faire des choix d'objets qui puissent aller au-delà d'une liste convenue des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Puis je voudrais préciser aussi que, qu'étant enseignant-chercheur en études cinématographiques à l'Université Lyon 2, j'ai aucune compétence dans le domaine des sciences de l'éducation, j'ai absolument pas l'expérience de terrain de mes collègues du FM, donc je suis un peu terrifié à l'idée d'intervenir devant vous à partir de mon champ de recherche. J'ai pas d'expérience à faire valoir, j'ai pas de modèle et de piste pédagogique à proposer, que ce soit clair. Mais je remercie vraiment, et j'ai accepté pour cette raison, je vous remercie de cette invitation, François Clay, parce que ça me permet de partager une recherche qui me passionne depuis une dizaine d'années, qui est une recherche sur les vues-lumière, ce moment précis. Et aujourd'hui, bon, je ne fais pas que ça, mais c'est une recherche que j'ai jamais laissée complètement de côté depuis à peu près 15-20 ans. Et j'y reviens régulièrement. Et ma position par rapport à l'objet de lumière a complètement changé en une dizaine d'années. Ça me surprend moi-même. Aujourd'hui, je l'aborde beaucoup plus dans l'articulation entre histoire culturelle et histoire du cinéma. Et là, peut-être, effectivement, ça entre en résonance avec certaines des préoccupations qui sont les nôtres dans ce glissement entre histoire des arts et histoire de l'art. Je vais donc consacrer cette intervention au moment lumière, qui est un moment très important. Alors là, y compris pour les instructions, puisque c'est un repère, c'est un vrai repère, c'est le début du cinéma, c'est l'invention du cinématographe par la Société Lumière en 1895, c'est le triomphe d'une nouvelle forme de spectacle dans les dernières années du 19e siècle, et c'est aussi un patrimoine constitué par l'ensemble des vues Lumière. Ces vues Lumière, aujourd'hui, je vais les aborder avec un angle têtu, précis, très exclusif par rapport aux 10 000 autres approches qu'on pourrait proposer. On aurait pu faire un exposé sur l'approche des vues Lumière en repérant toutes les phases, les méthodes, etc. Voilà, mais bon, on va considérer qu'on va changer complètement de type d'approche. C'est au fond le questionnement de l'appartenance des vues lumières à la culture de masse que je voudrais poser. Et il me semble que c'est important de le faire, justement à une époque où l'auteurisme fait un peu des ravages, y compris chez les conservateurs de musées, hein, puisqu'on a eu le privilège à Lyon d'avoir une exposition impressionnisme et cinématographe, qui, de mon point de vue, était tout sauf pertinente. Donc là, on peut, c'est évidemment polémique, c'est fait exprès, hein, bien sûr, on peut lancer le débat est lancé. Alors je vais l'aborder en trois moments, on va voir si j'ai le temps. Bon, Premier moment, c'est tout simple. Je vais m'attarder de la micro-analyse sur les entrées en scène du cinématographe. Et la première chose que je voudrais vous montrer, c'est l'acte de naissance, hein, métaphorique, bien sûr, du cinématographe, que vous connaissez tous, et qui est la sortie de l'usine Lumière à Lyon, le titre exact, la sortie de l'usine à Lyon, le premier film. Donc je vais vous le montrer. C'est une toute petite vignette qui apparaît sur le site de l'Institut Lumière, ça m'arrange que ce soit un tout petit, c'est pas... Voilà. Bon. Alors il faut quand même que je vous précise une chose, c'est que... En fait, il y a eu 5 versions de cette vue. Celle que vous venez de voir, elle date de mars 1896. Il y a une chose qui l'a datée, c'est les questions des ombres architecturales. Ça a permis de dater toutes les versions. Donc on sait assez précisément à quel moment ils ont été tournés, même au jour près, je vous en ferai grâce. Et puis en plus, on a parfois des recoupements avec la presse, ce qui fait que là, on sait que c'est la version avec le cheval noir à la fin de la vue, avec, correspond pas aux versions précédentes. La première, qui a été tournée en mars 1895, la toute première vue, celle qui a été projetée par Louis Lumière, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale à Paris rue de Rennes, elle a totalement disparu. On ne sait rien de cette vue, ce qu'elle est devenue. En revanche, en mai 95, il a récidivé, Louis Lumière, et il a fait une version avec 2 chevaux, un blanc et un noir, qu'il a passé au congrès des photographes à Lyon le 12 juin 1895, et puis qui était la vue qui figurait au programme de la première séance du cinématographe. Voilà. Puis il fera encore une version, celle que vous avez vue en mars 96 avec le cheval noir, une autre en août 96, une autre en 97. C'est sûrement l'un des motifs qui connaît le plus de versions dans la pratique des Lumières. C'est Louis Lumière qui s'en chargeait, il avait une affection particulière pour cette première vue, on peut le comprendre. Et le fait qu'il ait besoin de retourner des versions, ça, c'est le signe aussi que la vue avait énormément de succès, qu'il fallait absolument renouveler les négatifs, etc. Donc c'était le signe aussi d'un grand succès de la vue. Voilà. Alors on pourrait s'attarder de voir pourquoi en mars 96 et faire du comparatisme dans les différentes versions, montrer qu'elle est beaucoup plus mise en scène, beaucoup plus maîtrisée, que les ouvrières sortent beaucoup moins vite que dans la version de mai 95. Je vous épargne tout ça, c'est pas mon propos aujourd'hui. Je vais faire juste quelques remarques sur ce qu'on vient de voir. Ce qui frappe, c'est que la première vue est une vue réflexive. Pardonnez-moi, je dis toujours vue, mais j'essaye d'être toujours au plus près dans le vocabulaire de l'époque. C'est la première manière de se remettre un peu dans les cadres de pensée de l'époque, c'est éviter de dire film, préférer vue, éviter de dire cinéaste, dire cinématographiste, éviter de dire cinéma, dire cinématographe, éviter de dire producteur, mais fabricant, etc. Donc, le titre possible de cette vue qui est un geste inaugural et réflexif, comme souvent les gestes inauguraux peuvent l'être, d'ailleurs, ce serait l'origine du cinématographe. Évidemment, j'assume la référence à Courbet. La caméra désigne son lieu de fabrication, la caméra désigne sa matrice, elle désigne les usines lumière, un geste de désignation... qui peut rappeler du point de vue de l'énonciation, bien que la main de lumière ne figure pas dans le champ, elle peut rappeler la figure de l'admoniteur en peinture, désigne qu'il faut regarder, l'origine, il faut regarder, pointe du doigt l'origine. Et ce qu'on voit, c'est l'ouverture d'un portail et la délivrance des ouvriers, qui étaient majoritairement des ouvrières, et par déplacement, on peut considérer que cette vue figure l'accouchement du cinématographe par l'usine lumière. Alors il y a une autre réflexivité symbolique qu'on peut y voir, c'est la figure du défilé, c'est-à-dire le défilement, c'est une des figures clés des vues lumière. Il y a souvent des vues qui sont construites autour de défilés de personnages dans la vue. C'est aussi évidemment le défilement de la pellicule dans l'appareil qui fait la particularité. Et puis vous avez un détail à la fin de la vue symptomatique, c'est que c'est la voiture du patron qui ferme le banc, c'est la voiture de lumière. Et on peut le considérer que c'est un effet signature à la fin du plan qui ferme le plan, comme si le plan était signé. On peut considérer qu'il s'agit d'une revendication de paternité, pour continuer sur ces métaphores, de la part de Louis Lumière, qui tourne à vue. En plus, dans le titre, vous avez remarqué que la sortie de l'usine Lumière à Lyon, Lumière est en capitale. Bon, ce que vous avez vu en fin de compte, c'est que, et ce qu'elle nous dit cette première vue, c'est que le berceau du cinématographe, c'est quand même une usine, que c'est une invention industrielle, et que dès sa naissance, cette invention industrielle, chose connue, est inséparable du geste publicitaire. La première vue tournée est aussi une bande de promotion pour l'usine Lumière, et elle a servi pour la promotion de cette proposition, de cette nouvelle proposition. Donc l'entrée en scène du cinématographe, elle est à la fois performative, c'est la première vue, réflexive, cette vue désigne l'usine qui a produit la possibilité de cette proposition, mais elle participe aussi d'entrée de jeu d'une stratégie commerciale. Alors je vois si je peux revenir un peu plus devant. Voilà, très bien. Après l'acte de naissance, je vais m'attarder sur le faire-part de naissance. Alors, le faire-part de naissance, c'est ce programme de la première projection publique, de la première séance du 28 décembre 1895, dans le salon indien du Grand Café, 14 boulevard des Capucines, avec ses 10 vues et puis l'affiche. Alors, c'est capital parce que ce que les Lumières ont inventé, c'est moins la possibilité de tourner des films. Edison l'avait déjà fait avec un autre dispositif qui s'appelait le kinétoscope, tout ça est connu. Ce qu'ils ont inventé, c'est le fait de pouvoir projeter ces films et surtout de penser que ça pouvait être rentable. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse faire payer des gens pour aller assister à des séances où on projetterait des choses sur un écran, ça, personne n'avait eu cette idée de dispositif de spectacle avant eux. À vrai dire, c'est le père, sans doute, le père Antoine Lumière qui a insisté pour qu'on ait cette exploitation commerciale du cinématographe. C'était pas une démarche de Louis et d'Auguste Lumière, mais la véritable naissance du cinématographe, ce qu'elle a apporté de plus singulier, se produit ce jour-là, où la première vue projetée à un public payant se produit dans cette séance au Grand Café. Il est évident que cette invention d'une nouvelle forme de spectacle ne se produit pas par hasard à cet endroit précis, au salon indien du Grand Café. Le premier lieu d'exhibition du cinématographe, c'est un café des grands boulevards, et il faut s'arrêter sur ce fait social, c'est-à-dire que l'entrée du cinématographe se fait sur le boulevard. Et j'insisterai pas sur l'importance du boulevard, qui est à cette époque un point névralgique de la cité, de Paris en particulier, après Haussmann, où se concentrent les restaurants, les cafés, les théâtres, les fêtes foraines, d'une certaine manière, en tout cas beaucoup d'attractions. C'est quasiment un parc de loisirs, un ruban qui est de 5 km, qui s'étend entre Madeleine et Bastille. Et c'est un peu le berceau de la société du spectacle. Et j'ajouterais que, on peut convoquer Walter Benjamin d'ailleurs, ça me paraît inévitable, le boulevard lui-même est un spectacle. Sachant que les terrasses de café sont apparues sous le Second Empire, qu'on peut considérer que souvent les cinéphiles adorent traîner au café et puis regarder. Quoi. C'est la même chose, on regarde quelque part par la fenêtre de la terrasse dans la rue, et la rue se fait spectacle, avec le personnage du flâneur, avec les passages, avec les gens qui se regardent les uns et les autres. Le boulevard est véritablement le site de nouvelles pratiques culturelles. Alors on pourrait d'ailleurs choisir comme thème de travail interdisciplinaire l'étude des boulevards. Et regarder tout ce qui se passe sur ces boulevards, c'est très amusant. Vous savez que juste à côté du cinématographe, le musée Grévin, c'est intéressant, le musée Grévin avait ouvert en 1882, ou encore que les panoramas, qui sont des petits cousins du cinéma, ces immenses toiles peintes cylindriques, étaient également des dispositifs à proximité, mais il y en avait beaucoup d'autres. Alors j'insiste vraiment sur le fait qu'au-delà de cette première séance, dans ces premières années, le cinématographe qui est SDF, à ses origines, sans salle fixe, en tout cas SSF, il y en a un ou deux, hein, mais c'est pas très stable tout ça, il va élire domicile dans des baraques foraines, dans des grands magasins, dans des cafés-concerts et dans des foires. Autrement dit, le cinéma appartient pleinement du point de vue de sa réception, de son public, même si des bourgeois peuvent s'en canailler, il appartient à la culture de masse. Et il n'est en rien, à l'époque de son apparition, dans le champ de l'art. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être considéré comme tel aujourd'hui, hein, je ne dis pas du tout ça, mais à l'époque, en tout cas, c'est un loisir parmi d'autres. Et on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est dommage, hein, parce que les récents travaux en histoire culturelle montrent bien que la culture de masse ne date pas des lendemains de la Première Guerre mondiale. L'école de Francfort, un peu à tort, a trop répandu cette idée-là, mais pour des raisons contextuelles qui peuvent l'expliquer tout à fait. Mais enfin, on sait aujourd'hui qu'entre 1860 et 1930, on a véritablement un premier âge de la culture de masse, marqué par l'apparition de nouveaux produits culturels et par l'émergence d'une nouvelle économie du spectacle. Ce qui est peut-être plus original, c'est de regarder les vues lumières aujourd'hui, non pas simplement par le dispositif qu'elles proposent, mais par leur contenu même. Et là, je vais simplement poser la question, qu'est-ce que les lumières ont cinématographié ? Alors c'est une question fondamentale. Pour cela, ça suppose qu'on ait un peu plus de temps, c'est-à-dire 24 heures en non-stop, passées ensemble pour faire un marathon lumière, pour regarder les 1408 vues conservées. Ça fait à peu près 24 heures de projection. L'Institut de Lumière, qui va bientôt éditer un DVD avec plein de vues lumière, ce qui sera un bel outil pédagogique, a toujours ce projet un peu fou d'organiser ce marathon. Il faut absolument qu'il le fasse et mette une douche dans la salle. Mais voilà, tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, moi je ne l'ai pas fait en continu, mais je l'ai fait au fur et à mesure que les archives restauraient les films et qu'ils avaient proposé à Lyon 2 d'en constituer un catalogue, et c'est trop lourd à rapporter, mais au moment du centenaire du cinéma, on a publié un nouveau catalogue des vues lumière qui a permis d'identifier chacune des vues. C'était une aventure évidemment passionnante. C'est vrai que le fait d'avoir cette expérience-là modifie complètement le regard qu'on a sur ce fond-là, qui ne plus du tout à être réduit aux quelques vues canoniques, l'IBB, l'arrivée du train, etc., la sortie des usines en est une, qu'on a de partout, quoi, qui traînent partout, qui sont un petit peu des clichés concernant les lumières, mais on verra peut-être un peu pourquoi. Qu'est-ce que les premiers spectateurs du cinématographe ont vu, donc, sur les écrans ? Alors, on dit des choses très disproportionnées, et des gens très sérieux d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et ben, on dit parfois les vues lumière donnent une idée de l'état du monde à la fin du 19e siècle. Bon, j'aime beaucoup ce corpus, mais c'est vraiment leur faire beaucoup d'honneur que de penser qu'en 1428 fois 50 secondes, elles peuvent décrire l'état du monde à la fin du 19e siècle. C'est beaucoup trop large. En réalité, je vous épargne les différentes tentatives de catalogue qui avaient été faites par les Lumières eux-mêmes. Je vais pas trop historiser mon propos, mais en réalité, pour simplifier, pour vous donner un résultat de typologie sauvage, un résultat sauvage de typologie plutôt, on pourrait dire que sur 90% des vues, on a soit des captations de spectacle, soit des vues de voyage. Et je vais un petit peu m'attarder sur ces deux grands types de vues. Les captations, par captation de spectacle, évidemment, là, c'est absolument anachronique, je l'assume, c'est une façon de bien transmettre quelque chose qui, une expression contemporaine qui dit que le spectacle existe déjà, qu'il y a déjà un public, etc., qu'il existe en dehors du cinéma et que le cinéma ne fait que le vampiriser, le capter, se l'approprier, parfois au prix de mise en scène, d'aménagement, mais que le cinéma a pour but, le cinématographe aurait eu pour but de restituer des spectacles préexistants. Alors ce geste-là, il est considérable. À mon avis, les 3/5 du corpus entrent pratiquement dans cette démarche-là. Je vais vous donner des exemples très rapides, les danses, plein de danses, javanaises, égyptiennes, mexicaines, quelques pas de danse classique, des danseuses de rue, énormément de numéros de cirque, des acrobates, des jongleurs, des clowns, des gymnastes, des lutteurs, des chats-boxeurs et autres chiens savants. Là, on est dans la proximité du cinéma des attractions, en tout cas de l'attraction qui peut être identifiable à une vue. Les courses de chevaux, c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'on venait d'introduire la pelouse, donc les gens pouvaient, pour un prix un peu moins cher, je crois que c'était 1 franc pour accéder à la pelouse pour voir les courses hippiques à l'époque. Ce qui fait que le public des hippodromes se démocratise à partir de 1890. Mais je voudrais remarquer que le cinématographe, en allant filmer des courses hippiques, permet une démocratisation du spectacle hippique, un peu de la même manière que la télé a démocratisé le golf, par exemple. Il y a aussi des courses d'ânes. Je parle toujours des courses d'ânes à Charbonnières, parce que nous avons un siège du conseil régional à Charbonnières. J'en profite parce que comme il va se déplacer ici, pas très loin, là, au confluent, je pourrais plus faire cette astuce, mais ça fait toujours rire les Lyonnais quand on dit que les Lumières font une course d'ânes à Charbonnières. Puis il y a des corridas, il y a les premières courses de vélo. Mais le vélo était aussi quelque chose qui, dans les années 1890, a connu une expansion absolument considérable, au point que c'était très distinctif socialement à la fin des années 1880, mais qu'au début des années 1900, ça l'était déjà beaucoup moins, et c'était plutôt l'automobile qui devenait un signe distinctif. Vous avez plein de fêtes populaires, comme les carnavals, le carnaval de Nice, vous avez les grandes cérémonies, les funérailles de la reine Victoria, etc., couronnement du tsar. On peut supposer qu'il y avait un lion trône dans la salle à l'époque pour bonimenter. C'est souvent des cortèges de vues. Hein. C'est des paquets de vues qui couvrent ces grandes cérémonies, mais c'était déjà des spectacles à l'époque. Et puis vous aviez les expositions universelles, qui étaient évidemment des lieux privilégiés, du spectaculaire. Et là, comme pour les boulevards, elles étaient en elles-mêmes des sujets de vues et des lieux de spectacle. Avec le trottoir roulant pour 1900, c'est quand même pris entre deux expositions universelles, 1889, la Tour Eiffel et 1900. Et attention, c'était quand même des choses qui attiraient en 1900 50 millions de visiteurs. Donc c'est pas rien de voir que les Lumières ont beaucoup tourné autour des expositions et en particulier de celle-là. Et puis un massif qui est indigeste aujourd'hui, même si moi j'ai un petit faible de plus en plus pour ces vues-là, parce que je commence à me les rendre un peu plus familières, c'est les vues militaires, voir les hussards, les dragons chargés, etc. Mais bon, il faut remettre ça dans le contexte évidemment de 1870-1914, cette tranche cocardière patriotique, ce que vous voulez, où la présence de l'armée dans la vie sociale était évidemment incomparable à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la revue, etc., et les défilés, et c'était un spectacle que d'aller voir des défilés les troupes, et le fait de faire une captation, et en particulier des régiments les plus spectaculaires, les cuirassés et les cuirassiers, bonne occasion de faire une distinction sémantique, un peu de vocabulaire, cuirassés, cuirassiers, puis les dragons, puis les chasseurs alpins qui venaient d'être créés aussi, tout ça donne beaucoup de choses impressionnantes à l'écran. Je terminerai par quelque chose de beaucoup moins glorieux pour les Lumières, et du coup on en parle assez peu. Ce sont les os humains, c'est-à-dire qu'ils ont filmé les os humains. Vous savez, c'est cette tendance qu'il y a eu, même époque, 1860-1930, à promener des Africains, les exposer au jardin d'acclimatation, etc. Il y a plein d'articles, de scientifiques, de livres sur cette question-là. Et les Lumières ont profité en 1897... d'une exposition d'Achanti à Lyon, cours du Midi, qui est le cours Verdun aujourd'hui, pour tourner 12 vues, pour proposer d'ailleurs aux Achanti d'aller se regarder le soir dans le hall du Progrès pour voir quel effet ça leur faisait d'être confrontés à leur image. Et voilà, on a 12 vues de ce style-là dans le... Mais c'était aussi des formes de spectacle, hein, d'exhibition et de spectacle à l'époque. Hein. On a aussi ces vues-là dans le corpus Lumière. Ce qu'on peut dire, au fond, c'est qu'on trouve les trois cinquièmes du fond Lumière, on trouve une mine sur ce qui était considéré à l'époque comme étant de l'ordre du spectaculaire. Et cette captation qui est contemporaine d'un premier âge d'avènement des loisirs, et c'est vraiment dans cette idée-là qu'il faut regarder ces vues-là, c'est un peu l'almanach des spectacles à la fin du 19e siècle, et pour un historien des spectacles, les vues lumières, c'est incontournable, c'est extrêmement précieux, mais comme ces spectacles sont souvent un petit peu loin de nous, c'est plus difficile pour nous de savoir, de comprendre pourquoi c'était les loisirs les plus populaires à cette époque-là. Remarquez que, du point de vue commercial, ça se comprend très bien, parce que les Lumières, en allant privilégier des spectacles qui avaient beaucoup de succès, qui étaient déjà très populaires, bien, en s'adossant aux formes les plus populaires de la culture de l'époque, quand ils présentaient leurs vues, qu'ils les faisaient tourner un petit peu partout, ils bénéficiaient évidemment de cet intérêt populaire pour les sujets qu'ils proposaient. Ils récupéraient les publics populaires des spectacles qui étaient l'objet même de leur pratique, de leur captation. Et ça a très bien marché aussi pour cette raison. C'est pour ça que je dis toujours en souriant que, et toujours par provocation anachronique, c'était pas Arte les vues lumières, c'était TF1. L'autre aspect, l'autre type de vue du corpus lumière, c'est les vues de voyage. Ça, c'est très connu. C'est combien de temps encore ?
10 minutes,
15 minutes. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on a du temps. Ça aussi, c'est très connu, les vues de voyage. Voilà. Les vues de voyage, ça a commencé dès 1896, dès la première année, lorsque les Lumières ont envoyé des opérateurs à travers le monde. Ils ont d'abord été dans les colonies françaises. Ils ont pris des vues d'Algérie, de Tunisie, d'Indochine, mais ils ont été en Allemagne dès la première année. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Autriche-Hongrie, en Italie, en Russie, filmé le couronnement du Tsar. Ils étaient en Suisse, en Amérique du Nord, au Mexique, en Égypte et même en Turquie, d'Asie et d'Europe, en Australie, en Belgique, en Suède, etc. Même au Japon. C'est vous dire quand même que les Lumières à la conquête du monde, ça s'est pas fait en 3 semaines, comme l'a dit un jour Louis Lumière, mais en quelques mois. C'est assez remarquable. Qu'ensuite ils sont revenus, ils ont fait la même chose en France avec une série plus tardive en 1900-1901 qui s'appelle « À travers la France de 42 vues ». Mais à chaque fois, on remarque que il y a une corrélation entre le chemin de fer et puis les voyages des opérateurs. Ça c'est normal, c'est l'âge d'or du chemin de fer. Ils suivaient les lignes de chemin de fer et en même temps d'ailleurs ils filmaient le chemin de fer en route. À l'époque on appelait ça le voyage immobile, les vues lumières. Quand on allait au cinéma, on allait faire un voyage immobile. C'était aussi une façon de permettre aux gens de voyager sans jamais avoir à se déplacer, sinon en allant aux séances de cinéma. C'était une forme de restitution très populaire de voyage. Et ce n'était pas sans rapport avec les guides de voyage de l'époque, notamment le guide Johann, ancêtre de Baedeker et du guide bleu. Mais le guide Johann était un guide illustré où il y avait des photographies dans les années 90 et très souvent les vues lumières sont tournées aux emplacements même où vous avez la photographie dans le guide. Et ce que montre la vue lumière, c'est la description qui est effectuée par le guide Johann lui-même. Donc on voit bien que les vues lumières sont vraiment des contemporaines de l'essor du tourisme, même si le tourisme est un tourisme de classe, elles sont là précisément pour permettre à ceux qui ne le peuvent pas de faire ces voyages qui commencent à être envisagés. C'est un peu le tourisme du pauvre, on pourrait dire ça. Et puis c'est très très proche aussi de la vogue des cartes postales. Cartes postales, vous avez, je sais pas, 100 millions de cartes postales qui sont imprimées au début du XXe siècle. C'est considérable. Voilà. Alors pour là encore, c'est une façon de mettre le monde en spectacle et aussi d'en faire une marchandise, puisqu'il y a un vrai désir de consommation de ces images du monde. Godard l'a très bien montré dans Les Carabiniers. On peut regarder quand même la place des Cordeliers à Lyon. Alors cette vue de la place des Cordeliers a été tournée aussi par Louis Lumière. Vous avez remarqué un détail, la réclame pour Abadie, c'est peut-être pas forcément innocent, mais la caméra a été placée légèrement de biais. Bon, c'était un angle qu'affectionnait Louis Lumière pour pas être de face dans le flot de la circulation, dans le flux, mais en même temps c'était un cadrage photographique qui permettait de privilégier la diagonale et le passage. Ce qu'il faut noter, c'est que effectivement dans les vues de paysages urbains, il y en a beaucoup dans les vues lumière, et c'est un peu cette place des Cordeliers qui a été la matrice, c'était fait partie de la première série de vues, mais ensuite pour les opérateurs, on imité Louis Lumière un peu partout, suivant ce modèle-là, c'est un peu la forme canonique de la vue de ville. Ben, la vue lumière est un fait urbain. Et la ville n'est pas simplement un décor, c'est un sujet. On tourne dans la rue, et ce qui intéresse les lumières, c'est pas le bâtiment, c'est la rue. Là, on le voit bien, place des Cordeliers, parce que c'est pas du tout la nouvelle bourse du commerce qui est le sujet de la vue, c'est vraiment la circulation, parce que, tout simplement, ils avaient parfaitement compris la puissance cinétique d'une artère, d'une grande artère, qui est un lieu de passage, de traversée de champs, et en même temps, un endroit où la ville affiche sa modernité. Et du coup, le cinématographe, en filmant les centres-villes, en filmant ces nouveaux paysages urbains, ces transformations de la rue, il affirme aussi son appartenance à la modernité. Alors, quand je dis qu'il y a des captations pour les 3/5, et puis il y a aussi entre 200 et 300 vues de paysages, qui sont au fond des cartes postales, des mises en spectacle du monde, ça veut quand même bien dire qu'on est dans un espace des loisirs, d'un espace aussi qui est celui de la culture de masse, du point de vue de la culture visuelle. Mais j'occulte tout ce qui a été précédemment mis en valeur par une longue tradition, celle qui domine dans l'enseignement scolaire, et qui est celle des vues tournées par Louis Lumière. Et c'est vrai qu'on a une chose assez remarquable, c'est que sur ces 1428 vues, il y en a 70, à peu près entre 70 et 80, il y a des attributions dont on n'est pas complètement sûr, hein, mais on est sûr qu'au moins 70 vues ont été tournées par Louis Lumière lui-même, et que ces vues qui sont dans le catalogue publié par la Maison Lumière, à part, par ordre alphabétique et en début de liste, elles font partie des vues 1 à 100 du catalogue, ce sont des vues générales, elles ont un caractère particulier qui est propre à une pratique de Louis Lumière qui n'a pas été celle de ses opérateurs. Il y a vraiment une rupture dans les sujets, dans la façon de concevoir l'utilisation de ce nouvel appareil, entre la façon dont Louis Lumière l'a expérimenté et, au fond, le dispositif qu'il a mis au point en envoyant ses opérateurs aux quatre coins du monde pour filmer des captations de spectacles ou pour filmer des vues urbaines. Ce que Louis Lumière faisait, pour dire les choses très vite, c'est qu'il y a un très joli petit livre dans la collection Synopsis de Vincent Pinel. C'est assez original. Il y a quelques années, il a consacré ce petit opus à Louis Lumière, cinéaste. Alors, il s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il a bien isolé ces vues-là des autres. Et il remarquait que c'était un peintre dimanche, un bon photographe amateur. Au fond, il utilisait ses loisirs de grand bourgeois pour filmer ses enfants. Les vues enfantines, c'est la famille Lumière. C'est des vues de proximité. Il filmait soit au clos des plages, les barques, etc., soit les parties, les loisirs, les parties d'écartés, les parties de cartes, les parties, les jeux de boules, etc. Mais le parc de la Tête d'Or, évidemment, comme tout bourgeois lyonnais qui se respecte, n'est pas oublié. Mais c'est plutôt les loisirs d'un grand bourgeois. À ce titre-là, on n'est pas dans la même catégorie, même si on peut quand même y voir le souci de Lumière de rendre compte de son temps d'après le travail. Et je vais terminer par une filiation qui est oubliée, et qui peut permettre de jeter un nouvel éclairage aussi sur l'ensemble de ce fonds, c'est la filiation de la presse illustrée. Alors vous savez qu'on dit souvent, que, à juste titre, qu'il y a trois grandes filiations pour le cinématographe. Il y a la photographie, c'est évident, c'est une usine de plaques photographiques qui a inventé la pellicule et tout ça, l'argentique. Le dispositif des technologies inventées pour projeter des images fixes ou des animations d'images, beaucoup de spectacles, de la lanterne magique au praxinoscope et autres noms barbares. Ça, c'est très connu aussi, cette filiation entre le cinématographe et les, du point de vue technologique, et les autres dispositifs de spectacle. Simplement, le cinématographe a réussi parce que, comme disait Barthes, eh bien, ça a été pris en charge par le commerce, hein, tout simplement. On entre dans l'histoire, une invention technologique n'entre dans l'histoire que lorsqu'elle est prise en charge par le commerce. C'est peu ou prou ce que disait Barthes. Et puis le théâtre. Et le théâtre, à cause de la salle. Il faut rajouter certainement une filiation importante, mais négligée, qui est la presse, et la presse illustrée. Tout au long du 19e, et en particulier dans cette période 1860-1914, c'est l'entrée dans la lecture de masse, et notamment grâce à l'essor de la grande presse. On est dans l'âge du papier, et à partir de 1860, et en particulier de 1863, lorsque Moïse Polidor Millau fonde le Petit Journal, on commence à être de plein pied dans une presse illustrée qui n'est pas une presse scientifique, politique, mais qui presse de faits divers, de vulgarisation scientifique, technique et de romans feuilletons. C'est des choses considérables. En 1891, le Petit Journal diffuse à 1 million d'exemplaires et un supplément illustré. Ce que je voulais remarquer, c'est que il y a des liens très étroits entre l'illustration et les vues lumière. Alors moi, ça m'a frappé quand j'ai commencé à me plonger dans les numéros de l'illustration, notamment j'ai repris systématiquement les numéros de l'illustration pour les années 1896-1897 pour comparer ce qu'avaient filmé les Lumières et ce qui était publié dans l'illustration. Et ce qu'on constate, c'est que il y a une homologie entre le sommaire du catalogue et le sommaire des gravures de l'illustration. Là, il y a une parenté iconologique qui est très intéressante. Non pas que toutes les rubriques de l'illustration puissent se retrouver dans les vues lumière. Hein, il y a, la rubrique musique ne se retrouve pas dans les vues lumière. Science, pas vraiment non plus. Mais il y en a beaucoup d'autres qui se retrouvent. En tout cas, toutes les rubriques des vues lumière, du catalogue lumière, se retrouvent dans l'illustration. Armes, événements historiques, expositions, fêtes, cérémonies. Marine, sinistre, accident, les inondations de Lyon, le sport, des voyages, les vues, tout ça c'est le programme iconologique de ce magazine. Ce magazine, il était relativement cher, ça fonctionnait par abonnement, et je pense que les gens qui pouvaient s'abonner avaient quand même un peu d'argent. Ce que Louis Lumière a fait, c'est qu'il avait des liens avec les directeurs de l'illustration, il les connaissait assez bien, au point de présenter, enfin, en 1891, la première fois que l'illustration met une photographie en noir et blanc, c'est une photographie Lumière, et qu'en 1907, c'est l'illustration et son siège qui choisit pour présenter la photographie autochrome, donc c'est pas rien. La thèse que je voudrais juste suggérer, que j'aurais pas le temps de détailler et de développer, c'est qu'au fond, probablement que pour Louis Lumière, il a conçu quelque part mentalement, mais c'est vraiment une hypothèse de travail, voilà, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais probablement que pour lui, ça pouvait correspondre, ces vues lumières que chaque semaine étaient cataloguées le mercredi, de manière hebdomadaire, choisie, en fonction des rubriques qui étaient les mêmes que celles du magazine, c'était une façon de faire un magazine cinématographique illustré. Et que ça permettait de démocratiser considérablement un programme iconographique qui était réservé jusque-là aux classes bourgeoises, mais que le cinéma allait pouvoir faire entrer dans les classes populaires. Pour moi, les vues lumières sont vraiment les filles de cette presse illustrée, et c'est quand même pas indifférent que la première salle de cinéma fixe, elle est venue très tôt à Lyon, puisqu'ils l'ont installée dès la fin du mois de janvier 1996, c'était dans le hall même du journal Le Progrès. En conclusion, vous avez compris que mon souci principal, c'est de rendre à la culture de masse ce qui appartient à la culture de masse. Et que de dire qu'au fond, c'est ça qu'il faut aller regarder en priorité dans les vues lumières. Il faut prendre conscience que non seulement le cinématographe comme dispositif est quelque chose qui appartient à ce paradigme des spectacles, de la culture de masse, mais que les vues elles-mêmes, le fond lumière, est un fond qui appartient à cette culture populaire là, produite par une maison de production, mais qui est quand même dans laquelle on retrouve massivement tout ce programme qui va irriguer tous les postes où on montre des films à cette époque-là, et qu'il ne faut pas se précipiter trop vite dans les sphères de l'art pour faire l'éloge de ces grands artistes que furent néanmoins les opérateurs. Alors ça peut paraître très loin des préoccupations des élèves, mais en réalité, moi, je crois que c'est tout à fait proche. Il y a plein d'expériences pédagogiques qui ont été faites. C'est un exercice d'école de cinéma, d'université, etc. bien connu. Même des grands cinéastes l'ont fait au moment du centenaire. C'est le principe. On va fabriquer une vue lumière. Alors, on demande à une classe aujourd'hui on pourra le faire avec un téléphone portable. 50 secondes de plan fixe. Allez, rapporter une vue lumière. Ce que je sais plus qui disait, juste avant, je crois que c'est vous qui disiez, hein, une minute, c'est très très long. C'est vrai que pour la génération du zapping, fixer un plan, même s'il n'est pas tout forcément fixe, en 50 secondes, un plan en séquence, c'est très très long, mais c'est une superbe expérience pédagogique, c'est très formateur. Ils l'ont fait à Valence hier, Catherine Bateau en parlait, et ça a même été édité par le CRDP, les nouvelles jeunes vues lumière. Il y en a aussi dans un instrument pédagogique, d'un outil pédagogique de Bergala, qui s'appelle Petit à Petit le cinéma. On en trouve ces nouvelles vues lumière. Mais leur proposer comme programme d'aller filmer les loisirs, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez, avec en étant assez directif, qu'est-ce que vous feriez si vous deviez rapporter 50 secondes, ils auraient filmé les skates, etc., les skateurs, etc. Ce serait très amusant de voir qu'est-ce que c'est que pour eux le domaine des loisirs, et ce serait aussi une façon de leur montrer que les vues lumières ne rendent pas compte de toute l'expérience du siècle, mais de quelque chose de très précis qui est la naissance de la culture industrielle où l'image se taille une part de plus en plus grande.